Carnet d'IG, le podcast de l'INSERM. Nouvelles connaissances, nouveaux sports, nouveaux hobbies. On apprend tout au long de la vie. Pourtant, on associe souvent l'apprentissage à l'enfance. Et heureusement, car les enfants doivent beaucoup apprendre. À marcher, lire, écrire, compter, à se comporter en société. Engranger des connaissances ne suffit pas. Il faut aussi savoir quand les appliquer, dans différentes situations.
Les enfants sont hautement adaptables. Plus on est jeune, plus on est adaptable, plus on vieillit, plus on a déjà pris des habitudes, des manières de faire. Les travaux en psychologie, en didactique, ont montré que la question de la conceptualisation, ça va être aussi le fait que l'enfant va être en capacité de se sortir d'un contexte précis et se dire « Ah oui, mais c'est la même chose que quand je fais une recette de cuisine avec mon grand-père ou que je fais du bricolage avec ma grand-mère ou des choses comme ça. » C'est la même chose. Et quand l'enfant arrive à se dire « C'est la même chose », alors le savoir est plus généralisé que la première notion qu'il avait.
L'apprentissage, c'est la spécialité de Mélissa Arneton. Ingénieure de recherche, elle travaille notamment sur l'étude ELF, l'étude longitudinale française depuis l'enfance. Cette étude suit plus de 18 000 enfants depuis 2011. L'objectif, c'est répondre à la question « Comment les enfants grandissent-ils en France ?» que ce soit sous l'angle de la santé, de l'environnement ou des sciences sociales. Les données récoltées au cours de la scolarité de ces enfants permettent de mieux comprendre tout ce qui influence l'apprentissage. Car au-delà de la biologie, cet apprentissage peut être conditionné par de nombreux facteurs sociaux et environnementaux. Notamment le genre, qui peut influer dès le plus jeune âge, ou encore la culture du foyer de l'enfant.
Pour les données maternelles, on se rend compte qu'il ne semble pas y avoir d'effet du genre de manière manifeste et fort, mais que cet effet qui était un petit peu comme un trait latent en maternelle commence à se structurer en CP, avec peut-être une différence entre garçons et filles en mathématiques, de structure entre la maternelle et le CP. Dans le questionnaire enseignant, on a demandé comment l'enseignant considère l'enfant, s'il est très performant, si oui, dans quelle discipline, s'il a un comportement qui est dans les normes scolaires attendues ou pas. Et en fait, là, on peut voir qu'il y a aussi un effet du genre, que les enseignants vont peut-être considérer des garçons comme plus performants dans les épreuves scolaires que des filles, mais c'est pas tous les enseignants. Donc, dans ce cadre-là, on se rend compte que les enfants dès l'âge de 4-5 ans sont déjà en train d'avoir des comportements normés dans le choix d'un personnage. Par exemple, les petites filles vont plutôt choisir un chat et les petits garçons vont plutôt choisir un lion. Les enfants qui sont dans des cultures très orales, leur apprentissage de l'écrit un peu plus complexe, un peu plus lent, ça veut pas dire qu'ils ne peuvent pas le faire ou qu'ils ne vont pas le faire, mais chez eux, si, ce qui est valorisé, c'est parler, savoir raconter des histoires, savoir structurer quand on raconte une histoire. Et ben, il y a des cultures où l'enfant, dès l'âge de 5 ans, il va déjà faire une petite, plus qu'une phrase, parce que il a appris qu'il faut faire plus qu'un mot pour raconter. Tandis que dans d'autres cultures, on va être plus attentif au fait que les enfants vont prendre des livres et vont se familiariser avec les livres.
Quant aux langues, les conseils donnés aux parents sont parfois contradictoires. Il faudrait soit ne parler que la langue de l'école à la maison, ou au contraire favoriser l'apprentissage d'une deuxième langue dès le plus jeune âge.
Ça peut influencer le devenir de l'enfant, puisqu'on a des travaux qui montrent que quand, pendant une période, on a dit aux enfants qui étaient bilingues qu'ils devaient parler que la langue de l'école, ben c'était des enfants qui se sont construits avec une identité, une estime d'eux-mêmes très différentes que quand on valorisait leur deux langues. Et les travaux sur les enfants bilingues à 14-15 ans, des enfants bilingues qui mènent ou des compétences dans deux langues, on se rend compte qu'ils sont en capacité d'apprendre plus de langues après et aussi de plus penser qu'il peut y avoir des nuances et des différences dans les cultures, dans la manière de dire des choses, que des enfants qui sont monolingues.
Comme le genre ou la culture, beaucoup de facteurs peuvent influencer sur les apprentissages à l'école. Si on apprend en groupe, l'individualité a aussi un grand rôle à jouer dans la façon d'apprendre, parfois propre à chaque enfant.
Donc les enfants, quand ils sont petits, peuvent apprendre de plusieurs manières, même si certains ont des appétences naturelles, des centres d'intérêt naturels pour certaines modalités. Et il y a même des enfants qui ne vont pas apprendre en faisant seuls, ils vont apprendre en étant avec les autres enfants, en imitant les autres enfants. C'est aussi une manière d'apprendre. Il y a des enfants, ils ont besoin de bouger pour apprendre, parce que ça leur permet de maintenir leur attention. Donc si on les contraint à être assis sur une chaise, en fait, ils ne peuvent pas apprendre parce qu'ils doivent se contraindre déjà à faire quelque chose. Tandis que s'ils pouvaient marcher ou se tenir debout, un coup à genoux, un coup debout, pour eux, ça serait plus facile pour apprendre. Sauf qu'on est dans une société qui valorise le fait de savoir se contenir physiquement, et il va falloir apprendre à l'enfant qu'il y a peut-être d'autres techniques plutôt que de se mettre debout ou assis, quelque chose de plus petit, un objet à manipuler, à serrer, à comprimer, pour pouvoir se focaliser sur l'apprentissage scolaire.
Cultive et préserve ta santé avec l'INSERM. Ce besoin de bouger, d'être en mouvement, ça vous fait penser à quelque chose ? L'hyperactivité peut-être, comme dans le TDAH, l'acronyme pour trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Parmi ces troubles, de plus en plus étudiés, il y a aussi la famille des troubles 10, comme la dyslexie ou la dyspraxie. La dyspraxie touche 5% des enfants. Pourtant, elle est encore très peu connue. Justement, la dyspraxie, c'est la spécialité de Caroline Huron, psychiatre de formation et chercheuse à l'INSERM.
Donc la dyspraxie, c'est un trouble du neurodéveloppement qui touche la coordination des gestes. Et les enfants dyspraxiques, ils ont des difficultés à coordonner tous leurs gestes, aussi bien dans la vie quotidienne, s'habiller, couper sa viande, se coiffer, ouvrir une porte, conduire, que à l'école, puisqu'à l'école, il y a des gestes qui sont extrêmement complexes, tels que l'écriture manuscrite, qui nécessite une grande maîtrise de la coordination de l'œil et de la main, et qui va les mettre de façon systématique en difficulté. Alors la lecture pose pas vraiment de problème aux enfants dyspraxiques, si ce n'est qu'ils ont des problèmes avec leur mouvement des yeux, pas tous, mais un certain nombre, et que donc suivre une ligne peut être compliqué.
L'origine de ce trouble reste méconnue. On soupçonne quelques facteurs, comme la consommation d'alcool pendant la grossesse ou une naissance prématurée.
On a aussi des éléments en faveur d'origine génétique. Enfin, y a pas mal de familles dans lesquelles il y a plusieurs enfants, des parents atteints, des cousins, enfin, etc. Donc, mais c'est pareil, les gènes ne sont pas identifiés. Ce sera clairement, comme pour tous les troubles du neurodéveloppement, pas une problématique de transmission simple. Il y a un gène, et je le transmets ou pas, ça ne sera pas si simple que ça.
Comment accompagner les enfants diagnostiqués ? Notamment à l'école. Il faut d'abord les écouter et les comprendre. Les troubles de l'apprentissage sont des handicaps invisibles. Il est donc difficile de réaliser les obstacles auxquels ces enfants font parfois face.
Je pense qu'il faut être conscient, en particulier, des situations de double tâche dans lesquelles on met un certain nombre d'enfants sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que, typiquement, par exemple, quand on demande aux enfants de gérer le temps, il y a des enfants pour qui ils passent la moitié de leurs ressources attentionnelles dans la gestion du temps. Ils n'ont plus suffisamment de ressources pour faire la tâche qui leur est demandée. Bon, ben, pour les enfants en situation de... Ça, c'est invisible pour un enseignant. Pour les enfants en situation de handicap, en général, à besoins spécifiques, il y a plein de situations inattendues dans lesquelles ils sont en situation de double tâche cognitive. Donc, pour les dyspraxiques, typiquement, c'est l'écriture. Pour les dyslexiques, ça va être la lecture. Pour les enfants qui ont un trouble de l'attention, rien que leur dire « fais attention », ça leur mobilise toute leur énergie. Et donc, le reste est plus possible. Donc, pour chaque enfant, il faut essayer d'être au clair sur le fait que là, il est en situation de double tâche. Je pense que, par exemple, pour les enfants dyspraxiques, on me dit souvent « ils sont dysorthographiques ». Et je dis « ok, très bien, eh ben, on va regarder à l'oral ». Est-ce que cet enfant est capable d'épeler les mots correctement à l'oral ? Ben, un certain nombre d'enfants dyspraxiques épellent parfaitement bien à l'oral. Parce que, en fait, ils n'ont pas du tout de problème avec l'orthographe. Par contre, ils sont en situation de double tâche quand ils écrivent. Et donc, ils écrivent faux. Et pour l'enseignant qui intervient, il ne peut pas aider l'enfant s'il n'a pas compris que là, il y a une situation de double tâche. Et que donc, ce n'est pas que l'enfant n'a pas compris le concept. Ce n'est pas que l'enseignant n'a pas utilisé la bonne méthode, mais c'est que par contre, ils font contourner une situation de double tâche.
Alors comment faire lorsque le trouble fait barrage à l'apprentissage? Tout d'abord, aider les enseignants à accompagner ces enfants. Pour cela, il faut développer des outils adaptés. C'est le travail de Caroline Huron, à travers ses recherches, mais aussi grâce à l'association Cartable Fantastique qu'elle préside.
On va adapter ce qui est l'outil lecture, parce qu'au fond, c'est qu'un outil. On apprend à lire, pas juste pour lire, comme on apprend à lire pour lire quelque chose. Voilà. Et donc, c'est le quelque chose qui est important dans l'apprentissage scolaire avant tout. Et il faut absolument que les enfants qui ont des difficultés avec leur mouvement des yeux, ou même des enfants dyslexiques qui ont des difficultés avec l'outil lecture, puissent apprendre sans être entravés avec le fait qu'ils ont juste un problème d'outil. Et c'est la même chose pour l'écriture, bien sûr. Si un enfant ne peut pas apprendre une leçon en écrivant, souvent on me dit, bah oui, mais moi, si j'écris pas, je peux pas apprendre. Bah oui, vous, si vous écrivez pas, peut-être vous pouvez pas apprendre. Mais il y a plein d'enfants, en particulier ceux pour qui le geste écrit prend toutes les ressources attentionnelles, pour qui c'est le contraire. Si on les fait écrire, ils savent plus très bien ce qu'ils écrivent. Voilà. Donc, on va créer des exercices et on va faire le pendant pour les enfants standards, avec qui eux vont travailler sur papier. Typiquement, un exercice pour l'enfant dyspraxique, ce sera dans ses phrases, clique sur le verbe. Et donc là, on est d'accord que ce qu'on évalue, c'est sa capacité à identifier un verbe dans une phrase. Et pour les enfants standards, ce sera recopie ses phrases et entoure les verbes. Donc tout le monde travaille la même compétence, mais certains le font à l'écrit avec un crayon et d'autres à l'ordinateur. Mais je pense qu'il faut faire attention. C'est vrai que sur le groupe, c'est important. Parce que voir une méthode de lecture, par exemple, si ça marche sur une grande partie de la population, c'est intéressant. Mais quand on est dans le champ du handicap, il faut toujours penser que peut-être, eh ben, eux, ils sont juste celui dans le groupe tout au bout sur lequel ça marche pas. Voilà. Et donc, pour eux, peut-être, il va falloir autre chose.
Carnet d'IG, le podcast de l'INSERM. C'est la fin de cet épisode de Carnet d'IG, le podcast de l'INSERM consacré à la découverte des mécanismes de notre corps. Nous remercions Mélissa Arneton et Caroline Huron pour leurs interventions dans cet épisode. Une coproduction de l'INSERM et du Labo des Savoirs que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt !